Radio de la Paix, il est 12h. Le bulletin de midi, Francis Cassis.
Madame, Monsieur, bonjour à la une de l'actualité. Selon Lassina Diarra, chercheur et spécialiste des questions de défense, de sécurité et des mouvements terroristes, la détention de deux gendarmes ivoiriens depuis 4 mois au Burkina Faso est due à de petites tensions entre la Côte d'Ivoire et les autorités burkinabées. Cannes 2023, malgré la défaite hier des éléphants, les supporters de Bouaké gardent espoir pour la suite de la compétition. Préparation à une éventuelle guerre contre la Russie, l'OTAN annonce à partir de la semaine prochaine un exercice militaire géant baptisé « Défenseur inébranlable » impliquant 90 000 soldats. Et puis, vers la fin de ce bulletin, l'invité de la rédaction, un enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara de Bouaké, sinon. Pour lui, en instaurant actuellement une opération d'identification de leurs militants, les partis politiques ivoiriens comme le RHDP, le PDCI et le FPI, par rapport à la présidentielle de 2025, veulent maintenir leurs militants en éveil et accroître leur nombre. Docteur Tawa Newton répondra à cet effet aux questions de Jean-Claude Comey. Deux gendarmes ivoiriens restent détenus depuis 4 mois au Burkina Faso après avoir traversé sa frontière avec la Côte d'Ivoire par inadvertance. Mais cela tarde à se régler à cause de petites bisbilles entre ces deux pays, soutient le chercheur et spécialiste des questions de défense, de sécurité et des mouvements terroristes, Lassina Diarra.
Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes confrontés à un problème de matérialisation des frontières, c'est-à-dire que la pourriture des frontières, où il arrive parfois que des éléments des forces de défense et de sécurité des part et d'autre se trouvent sur un territoire étranger. Et par coutume, cela se règle de façon courtoise et avec autant d'amitié entre les États. Sauf que ces cas en particulier interviennent dans un contexte où il existe quelque part, selon certaines informations, de petites tensions entre la Côte d'Ivoire et les autorités de la transition du Burkina Faso actuelle. L'État ivoirien, je crois récemment, le porte-parole du gouvernement a expliqué qu'il y a de pourparlers, il y a effectivement aussi des échanges entre les autorités de ces deux États au plus haut niveau, de manière à ce qu'on puisse arriver à une situation totalement apaisée et aussi à la libération de ces deux gendarmes.
Le chercheur et spécialiste des questions de défense, de sécurité des mouvements terroristes, Lassina Diarra. Lutte contre la vie chère. Pour garantir la sécurité alimentaire des populations, la Côte d'Ivoire a interdit l'année dernière l'exportation des produits vivriers pour une période de 6 mois. Mesure qui reste en vigueur, rappelle le président de la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI, Yves Aka.
En 2022, lorsqu'il y a eu la flambée des prix au niveau des denrées de première nécessité, l'État a pris plusieurs mesures dans cette mesure parce que on s'est rendu compte que au moment où on était en train de dire qu'il y a vie chère et que cela est dû au fait que les facteurs extérieurs, c'est-à-dire les crises, les guerres, la Covid et autres, l'augmentation des produits pétroliers au plan international, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des facteurs internes, endogènes. Et parmi ces facteurs-là, il y avait que les produits dont nous disposons à l'intérieur étaient exportés massivement auprès des pays, nos voisins au niveau de l'Interland et même au niveau de l'Europe. Et donc, pour qu'il y ait autosuffisant alimentaire en Côte d'Ivoire, il fallait d'abord se rassurer que ce qui est produit et mis à la disposition des consommateurs locaux, les consommateurs vivant en Côte d'Ivoire. Et donc, étant donné que les frontières ne peuvent pas être contrôlées physiquement sans que cette interdiction d'exportation ne se fasse en dehors de l'État, il fallait donc prendre une réglementation. Et donc, à l'occasion des différentes mesures de lutte contre la vie chère, l'État de Côte d'Ivoire, au travers du ministère du Commerce, a interdit les exportations de produits vivriers.
Le président de la Fédération des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI, Yves Aka. Cannes 2023. les éléphants battus hier 1-0 par les Super Eagles du Nigeria. Pour l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, cette défaite a été causée par un handicap physique de ses joueurs qui se sont aussi heurtés à une muraille défensive des joueurs nigériens. On écoute Jean-Luc Gassé.
C'était un match très, très physique. Le Nigeria avait choisi de défendre très bas avec une défense à 5 pour jouer les contres avec leur attaquant vedette. Et donc ils nous ont attendus dans leurs 30 mètres en refusant le jeu. Il fallait qu'on ait la patience, il fallait qu'on ait la maîtrise, il fallait qu'on passe par les côtés et qu'on arrive à marquer un petit but parce que c'est un match fermé. Notre gardien n'a pas eu un arrêt à faire, alors que je pense que le gardien du Nigeria a 2-3 parades. Ça a joué sur un détail sur le meilleur joueur du Nigeria. On n'a pas donné l'impression de pouvoir rivaliser physiquement. Physiquement, ça a manqué de force dans la surface, de présence aussi un peu. On a eu quelques situations où ça a centré, mais c'était les grands défenseurs nigériens qui renvoyaient incessamment le ballon. On a essayé, même jusqu'à la dernière minute, on a changé de système, on a joué très offensif avec deux joueurs de côté. Et un petit détail fait que un penalty qui fait que ce match, on le perd 1-0.
Jean-Louis Gassé, sélectionné ivoirien pour la CAN. Pendant ce temps, à Bouaké, les supporters ivoiriens, malgré cette défaite, restent confiants pour le prochain match des éléphants contre la Guinée-Bissau. Nous apprend Joseph Assalé, notre correspondant, sur place.
La prestation des éléphants contre les Super Eagles de Nigeria est diversement commentée par les supporters de Bouaké.
C'est pas bon, c'est très médiocre.
Je suis découragé.
On a un très bon joueur qui a sur le banc. On appelle ça le Chris Zengo.
La défaite de l'équipe ivoirienne n'émousse nullement l'ardeur de ses supporters.
Je suis pas découragé. Découragement, c'est pas ivoirien.
Mieux, ils affirment que l'espoir est permis.
On a essayé de gagner la Guinée équatoriale.
On espère que le match à venir contre la Guinée équatoriale, on pourra vraiment relever ce défi-là.
La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va passer.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une défaite. Mais je pense bien que non, avec la Guinée équatoriale, ça va marcher. Je pense bien que non, on va gagner.
Troisième match, on mène là. On a encore l'espoir. Troisième match, ça va aller.
Je pense bien qu'aujourd'hui, nous avons perdu. Mais le prochain match, on va cantonner.
La rencontre éléphant de Côte d'Ivoire et le Nzalang national de Guinée équatoriale est prévue pour ce 22 juillet à 17h au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
Et puis, à la faveur de cette CAN 2023, les anciennes gloires du football ivoirien ont été sollicitées par le ministère de la promotion de la jeunesse pour sensibiliser la jeunesse contre le fléau dont la drogue, l'immigration irrégulière, les grossesses non désirées et les violences basées sur le genre. Cette campagne a démarré hier à l'Agora de la commune d'Abobo, nous dit Jean-Claude Mabia.
Les raisons de la sollicitation des ex-footballeurs internationaux ivoiriens ont été expliquées par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré.
Ils vont sillonner quasiment toutes les villes qui abritent donc la CAN et certaines villes intérieures du pays. Ils seront donc dans les lieux de grands rassemblements pour nous aider à la sensibilisation contre ces fléaux. Donc ça sera des prises de parole, ça sera des échanges avec les populations, avec les jeunes. Et si vous voulez par exemple l'immigration clandestine, vous savez que pour la plupart de ces joueurs, ils ont évolué à l'étranger. Donc qui mieux que eux connaissent la réalité de la vie à l'extérieur, ils pourraient donc saisir l'occasion donc pour parler à nos jeunes frères qui rêvent encore de partir. On ne demande pas de ne pas partir, mais il faut bien partir. Et comment bien partir, etc. Les pièges à éviter. Donc voilà autant de sujets qui feront l'objet donc de communication de ces joueurs.
Ensuite, l'ex-footballeur international ivoirien Haruna Kone, leur porte-parole, a dit leur détermination à accomplir cette mission.
Nous sommes très contents de faire partie de ce projet et nous espérons que tout ce que nous allons donner comme conseil et sensibilisation que ça va porter et qu'au final les enfants ils tirent quelque chose de tout ce que nous allons donner comme conseil.
Cette campagne de sensibilisation va se dérouler du jeudi 18 janvier au samedi 11 février prochain sur toute l'étendue du territoire national.
À l'ESOP aussi, à travers cette CAN, la mairie sensibilise les jeunes dans les 24 quartiers de la ville à l'entente entre les populations. Notre correspondant Jérôme Kouassi, du district du Zanzan, y était récemment.
Cette approche à l'initiative de Madame le maire de la commune d'Azopé, Achi Florence, expliquée par un agent de service socio-culturel de la mairie et animateur de la maison des jeunes et de la culture d'Azopé, Monet André Fabien.
Il y a deux sites. Le site principal, c'est celui de la maison de la culture où il y a un grand village CAN avec une capacité d'environ 800 personnes. Il y a une autre partie pour les quartiers qui sont un peu plus éloignés du centre-ville et on va là-bas avec un dispositif particulier, un vidéoprojecteur, un abonnement canal et permettre à ce quartier-là de pouvoir suivre les matchs du jour.
Le comité d'organisation profite de l'instant de repos des joueurs pour s'adresser aux jeunes. Fan est un habitant d'Azopé.
Fait Alain, j'habite à Mamadoukouné. Lors du mi-temps, il y a eu des gens sensibiliser sur la cohésion sociale, s'adresser aux jeunes comme un message pour lier cohésion sociale. C'est une bonne idée, la mairie d'Azopé.
Dans un chronogramme établi, les 24 quartiers habiteront chacun à son tour son village CAN tout au long de la compétition, rassure l'animateur de la maison des jeunes et de la culture de la ville d'Azopé, Monet André Fabien.
On a fait un chronogramme de sorte à ce que jusqu'à la finale, chaque quartier au moins puisse recevoir la délégation amenée par Madame le maire Achille Florence.
Les jeunes volontaires en charge de l'hygiène des villages CAN ont reçu des kits de petits matériels d'entretien des sites ce mercredi 17 janvier 2024 à la Maison de la Culture. Cet apport a été fait par la Direction régionale de la jeunesse et la Direction de l'assainissement et de la salubrité de la région de la Mé. Jérôme Kouassi de Bouna à Zopé pour la Radio de la Paix.
Midi 12 à Abidjan et en temps universel. L'OTAN s'apprête à Munich. À partir de la semaine prochaine, le plus important exercice militaire depuis la guerre froide. Ces manœuvres baptisées « Défenseurs inébranlables » avec 90 000 soldats doivent durer plusieurs mois et visent une préparation à une éventuelle guerre contre la Russie sur fond du soutien à l'Ukraine des 31 États membres d'Europe et d'Amérique de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le Parlement européen a voté hier jeudi en faveur d'une résolution demandant un cessez-le-feu durable dans le conflit israélo-palestinien, à la condition spécifique que le groupe Hamas, basé à Gaza, que les députés européens qualifient de terroristes soient démantelés et que tous les otages israéliens qu'ils détiennent soient libérés, rapporte l'agence France-Presse. Place à présent à notre invité de la rédaction, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Alassane Ouattara d'Obouaké. Il soutient que l'opération d'identification des militants initiée en ce moment par le RHDP, le PDCI et le FPI est le moyen pour ces partis d'entretenir la flamme militante et de s'implanter davantage dans le pays à la veille de l'élection présidentielle de 2025. Docteur Tawar Neuton répond à cet effet aux questions de Jean-Claude Koné.
Docteur Tawa Neuton, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Nous constatons un certain regain au niveau des partis politiques, pour citer notamment le RHDP, le PDCI et le FPI, qui décident donc d'identifier leurs militants ou d'aller à la pêche de nouveaux militants. Pourquoi ce réveil de ces partis-là?
Alors, à mon sens, c'est une stratégie politique qui consiste à maintenir les militants de ces différentes formations partis politiques en éveil. Et aussi, la temporalité est à prendre en compte. Nous sommes à un an quasiment des élections prochaines. Il s'agit pour ces différents partis politiques de maintenir la cadence, maintenir leurs militants en éveil pour des batailles futures.
Justement, pourquoi un parti juge-t-il nécessaire d'entretenir donc ses militants? Pour vous, c'est pour quel objectif?
D'abord, dans un premier temps, pour le parti au pouvoir, c'est peut-être pour juguler quelques frustrations qui pourraient être latentes et qui pourraient jouer contre le parti au pouvoir, donc dans une confrontation électorale future. Maintenant, pour les partis d'opposition, et là je fais référence au PDC-RDA, il y a un nouveau président, il s'agit effectivement de ratiser l'âge et de faire naître un espoir nouveau, montrer qu'il y a une nouvelle offre. Donc tout ça participe effectivement de les mettre en ordre de bataille pour les batailles futures.
Dans cette approche, on note des stratégies différentes. Par exemple, le RHDP et le parti au pouvoir parlent de immilitants. Quand par exemple, il y a une opération spéciale de recrutement du côté du PDCI, on a aussi cette approche donc du FPI, le Fonds Populaire Ivoirien, avec la marée bleue. Comment jugez-vous ces différentes stratégies?
Alors, ce sont des terminologies qui s'attachent à ces différents partis politiques. La marée bleue, ça peut rappeler la couleur de l'espoir et la couleur du Front Populaire Ivoirien, le I militant. pour le RDP, il s'agit de montrer que le parti est à la pointe des nouvelles technologies et des évolutions de l'ère du temps. Maintenant, pour le PDCI, effectivement, il s'agit vraiment de dire que dans l'ère post-Bédier, l'espoir est encore possible, qu'il faut rester sur ses gardes, il faut rester sur ses commissions au sein du parti. Pour dire aux militants qu'il y a encore de l'espoir dans leur parti, il ne faut pas migrer ailleurs.
Ces différentes stratégies ont pour ambition de séduire aussi ceux qui peut-être ont peur de la politique. Pour vous, c'est aussi une approche que nous pourrons analyser dans ce sens-là?
Oui, bien sûr que dans un premier temps, il s'agit de maintenir les militants en éveil, mais il y a aussi la stratégie de conquête de nouveaux militants, on va dire de ceux qui ne sont pas jusque-là encartés. Donc c'est possible et je crois que ce parti qui a beaucoup à gagner dans cette stratégie, c'est le PDCRDA, parce que c'est un parti dont la résistance aux élections locales a envoyé un message d'espoir dans le cœur, bien sûr, de leurs militants, mais des hésitants politiques. Donc le PDC qui veut vraiment ratisser l'âge, sortir au-delà de son précaré, et vous avez vu le discours du président nouvellement élu, le PDC qui veut repositionner le parti au nord.
Alors, docteur Tawaneton, il y a un point aussi, quand nous parlons de partis politiques, c'est la faible donc mobilisation financière au sein de ces partis. C'est vrai, des partis sont financés par l'État, mais il est aussi question de fois des cotisations. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces différentes stratégies de mobilisation, c'est une manière aussi d'amener ceci à contribuer à la vie du parti au plan financier?
Oui, peut-être. Et je pense que les militants de ces différents partis-là auraient à gagner, effectivement, à mettre la main à la poche pour revitaliser la démocratie interne. Parce que, voyez-vous, la question du financement des partis politiques revient au devant de la scène à l'occasion des choix des candidats à des élections locales. Là, je fais référence au choix des candidats pour être député ou bien mairie ou président du conseil régional dans les localités. C'est en ce moment-là que les grands pourvoyeurs reviennent et rappellent que le parti a jusque-là vécu dans leur région grâce à leur financement. Et parfois, ça handicape certains candidats qui ont peut-être des rapports populaires. Donc oui, participer à la vie du parti, ça donne de la vitalité au parti, mais ça donne aussi de la voix à chaque militant. Et je pense que les partis également gagneraient à encourager cette pratique pour que la démocratie vraiment à l'interne soit quelque chose qui soit productif et qui finalement sera reproduit au plan national. Parce que voyez-vous, quand à l'intérieur des partis politiques, la démocratie est niée, on n'est pas sûr de la voir au niveau national.
Alors, comment les Ivoiriens doivent percevoir ces messages-là? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens doivent s'intéresser à la politique? Vous qui êtes politologue?
Il faut bien que tout le monde s'intéresse à la politique, d'autant plus que nous avons un système politique qui a choisi la démocratie comme mode de gestion de l'État. Si les citoyens abandonnent la politique à une poignée de citoyens, finalement la minorité impose sa volonté à une grande partie de la population, la démocratie est en danger. Donc il faut bien sûr s'intéresser. Alors peut-être la question ce sera, mais pourquoi est-ce qu'il y a un désamour de la chose politique? Il faut peut-être interroger le fonctionnement des institutions de régulation politique. Est-ce que le vote de la population est respecté? Est-ce qu'il y a la sincérité du vote? De sorte que si on résout cette question, je pense qu'on va assister à un retour en force des citoyens dans le jeu politique et dans la participation citoyenne.
Docteur Tawaneton, je vous remercie.
Merci à vous également.
À l'instant, l'invité de la rédaction, l'ancien chercheur en sciences politiques à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, Dr Tawaneton, répondant à Jean-Claude Comé. C'est ce qui met fin à ce bulletin, le rappel de ces titres. Selon la Sénadira, chercheur et spécialiste des questions de défense, de sécurité des mouvements terroristes, la détention de deux gendarmes ivoiriens depuis 4 mois au Burkina Faso est due à de petites tensions entre la Côte d'Ivoire et les autorités burkinabées. Cannes 2023, malgré la défaite hier des éléphants, les supporters de Bouaké gardent espoir pour la suite de la compétition. Préparation à une éventuelle guerre entre la Russie et l'OTAN. L'OTAN annonce à partir de la semaine prochaine un exercice militaire géant baptisé Défenseur inébranlable impliquant 90 000 soldats. Et à présent, la revue de presse de ce vendredi avec Jean-Mélette Bitti.
Bonjour à tous. La défaite des éléphants de Côte d'Ivoire à la dernière sortie de Laurent Gbagbo, l'élection du nouveau maire de Kumasi, le grave